9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Maître Serran est ravi de vous retrouver, mes camarades, pour la 11e émission de l'année 2022, émission importante s'il en est.
Ah oui.
Car je vais officiellement vous annoncer, mon cher Philippe, que le 2 avril, et oui, demain, c'est l'événement que vous attendiez tous avec impatience, c'est le début du Ramadan. Et croyez-moi, ce n'est pas un poisson d'avril. Oui, je sais, le côté magique que l'on a connu durant notre enfance, à savoir ce fameux jour du doute a disparu. Maintenant, on est capable de te dire sur toutes les années à venir quand va débuter le Ramadan à la vitesse où on va, on finira bientôt par nous dire dès la naissance d'un enfant quelle sera très précisément son espérance de vie au jour près. Plus de jours de doute, plus de magie. Le Ramadan commence donc le 2 avril. Ouais, on est content. 30 jours de spiritualité, 30 jours au cours desquels on va tenter de faire le bien autour de nous, ce qui nous permettra de nous donner bonne conscience, de nous faire pardonner toutes les bêtises et les méchancetés qu'on a pu faire durant les 11 mois précédents. Tous les soirs, les bons musulmans iront à la mosquée écouter l'imam, le sage parmi les sages, paraît-il, et reviendront, je l'espère, plus apaisés, avec peut-être moins l'envie d'être médisants, de tromper leur femme, voire de la battre. Pour ma part, ce qui me dérange le plus, mon cher Philippe, c'est que durant le Ramadan, je ne pourrai plus utiliser certains termes. Vous m'avez déjà mis en garde la semaine dernière.
Même tout à l'heure, je l'ai dit tout de suite.
Les oreilles chastes de nos auditeurs ne supporteraient pas les termes comme zgeg, baltrou, schneck, des termes aussi poétiques les uns que les autres. Je vais donc être contraint de changer de logiciel et de faire des chroniques chiantes pendant un mois.
Mais avant de se lancer... Encore plus que d'habitude.
C'est exactement ça. Mais avant de se lancer dans cette phase de spiritualité et de puer de la gueule pendant 30 jours, évoquons l'actualité de la semaine. D'ailleurs, j'invite les auditeurs musulmans à bien vouloir garder leur masque partout pendant le Ramadan, même si c'est pas obligatoire, car sachez que c'est obligatoire pour la personne qui sera en face de vous et qui devra supporter votre haleine d'égout. Mais avant d'être confronté à ces haleines insupportables, évoquons donc l'actualité de la semaine. Je pourrais vous parler une énième fois de la guerre en Ukraine, mais je vais m'en dispenser. Parlons plutôt de politique intérieure. D'ailleurs, j'ai lu le détail des propositions des candidats. J'étais prêt, moi, à voter pour le candidat qui aurait proposé dans son programme un Ramadan une fois tous les 5 ans. J'ai trouvé personne d'assez courageux pour envisager une telle mesure, sauf peut-être Éric Zemmour, mais je le trouve trop extrême. Lui veut que les musulmans ne soient plus des musulmans. Là, c'est trop quand même, ce type, toujours dans l'excès. Marine Le Pen, pas mieux. Elle veut interdire l'abattage rituel. Pour être tout à fait honnête, elle n'est pas la seule. Yannick Jadot, candidat des Verts, s'est dit lui aussi pour l'interdiction de l'abattage rituel, jugeant qu'aucune tradition ne justifie de faire souffrir les animaux. Alors, sauf à demander à un mouton de se dbah lui-même, je sais pas comment on va faire. Mais avant de trouver une solution à ces propositions destinées à frustrer les musulmans et les juifs, je vais vous inviter à poser vos questions au 01 53 48 3000, émission sous le contrôle de notre imam du jour et de toujours, à nous, monsieur Philippe Robichon, à vous, maestro.
Maître Serran, sur Beurre FM. Et là, je m'arrête.
Ah bon, comme ça?
Non, je vous laisse.
Il n'y a pas de suite.
Non, j'ai pas envie de vous parler.
Mais pourquoi?
Parce que j'ai pas envie de vous parler, maître.
Mais vous êtes boudeur.
On peut pas m'obliger.
Non, absolument pas.
À parler à quelqu'un qui nous lâche.
Comment ça, je vous lâche? Je suis là ce matin et je serai là tous les vendredis, Inch'Allah.
Ouais, vous nous lâchez.
Mais non.
Après, ça vous regarde.
Bon, d'accord.
Parler, faire le bien, blablabla.
Bon. D'accord, c'est-à-dire que vous me reprochez quoi? De ne pas être là tous les jours comme les...
Tous les soirs.
Oui, voilà, on va plutôt tous les soirs.
Non, mais c'est impossible. Pendant le mois du Ramadan.
C'est impossible.
Non, il y a...
Trop de tradma...
Non, il y a votre public, très chouette, qui vous aime.
Ouais,
mais qui... ça va manquer, donc bon...
Mais justement...
Après, ça vous regarde.
Non, mais justement...
Si vous avez décidé de
Non, mais
de réduire votre quota de SNET pendant ce mois de Ramadan, ça vous regarde.
Pas du tout, mais pendant le Ramadan, c'est un public assez particulier, c'est-à-dire que vous pétez trop fort et on vous regarde de travers et vous êtes un méchant personnage, alors que tous les autres jours de l'année, tout le monde dit tout et n'importe quoi. Donc c'est un public qui est spécial pendant le Ramadan.
Mais il faut s'adapter. Moi, je crois que et ça, je l'ai appris en faisant de la radio pendant quelques années. Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi respecter si les mots heurtent ceux qui jeûnent, il faut s'adapter aussi, maître Serran.
C'est vrai.
Voilà.
Ouais. D'ailleurs, je me suis tellement adapté que je reviendrai donc, Inch'Allah, que les vendredis.
Donc, je vous laisse. Non, mais... Allez-y, enchaînez. On va vous parler de quoi? Vous voulez parler
alors,
de quoi
aujourd'hui? Ouais, c'est vrai, alors écoutez, aujourd'hui, on va parler de quoi?
Des banques?
On va parler des banques. Ouais.
Est-ce qu'une banque, elle a le droit de fermer votre compte si elle a décidé?
Tiens. Bah voilà, c'est une profession qui est assez particulière, puisque les banques ont pour habitude de faire tout et n'importe quoi. D'ailleurs, qui connaît une banque qui aurait fait faillite sur le territoire français? Ça n'existe pas. Hein. C'est la seule profession où ils perdent jamais d'argent.
Et on est. Ou alors, on le dit pas, hein.
Ou alors on le dit pas, oui, ouais, mais de toute manière, ou après on se sucre sur le compte des uns et des autres, donc ils s'en sortent tout le temps. Donc c'est vrai que c'est une question qui est intéressante parce que ça arrive parfois à certaines personnes et quand ça vous arrive, ça vous met quand même en grosse difficulté. Donc la question étant de savoir est-ce qu'un établissement bancaire peut fermer un compte sans raison particulière. C'est-à-dire qu'on pourrait à la limite entendre et comprendre lorsque vous êtes à découvert très régulièrement, mais les banques sont pas folles, car lorsque vous êtes à découvert, évidemment, vous restez rentable toujours pour l'établissement bancaire avec toute une série d'agios. Mais il arrive parfois que votre compte est un compte qui fonctionne correctement, il est alimenté, et puis un établissement bancaire peut et aurait le droit de vous sucrer votre compte. Alors il faut toujours vérifier ce que les personnes qui ouvrent des comptes ne vérifient jamais. C'est-à-dire que quand vous ouvrez un compte, vous avez un tas de papiers.
Conditions voilà. Générales.
Alors, je défie quiconque de d'essayer de comprendre un peu ce que ça veut dire. Et ces contrats écrits en tout petit, honnêtement, voilà, on les paraffe et puis et on en reste là et on les met dans un tiroir quand on ne les balance pas. Mais il est toujours intéressant quand même de revenir sur ces conditions-là. Alors pourquoi? Essentiellement, alors vous trouverez jamais un motif particulier, c'est-à-dire que encore une fois, le principe étant qu'un établissement bancaire peut fermer votre compte. Voilà, il n'y a pas condition.
Mais pourquoi? Quel intérêt aurait-il à fermer votre compte?
Il pourrait fermer votre compte si, par exemple, d'abord si votre compte ne tourne pas régulièrement, c'est-à-dire que c'est pas rentable pour un établissement bancaire. J'ai n'importe quoi, vous mettez un montant et vous n'êtes pas à découvert, mais votre compte ne tourne pas. Donc pour un établissement bancaire, c'est pas spécialement intéressant. Il pourrait fermer votre compte si il y a des je vais utiliser le terme des banquiers, des éléments suspects sur votre compte, si vous versez de l'argent, et notamment en espèces, alors les banques n'aiment pas beaucoup ça, si vous percevez des chèques qui, a priori, ne correspondraient pas aux conditions que vous avez évoquées avec votre établissement bancaire, parce que si vous dites je suis salarié et je gagne 2 000 euros par mois, si vous versez des chèques qui sont 2 500, 2 000 ou 3 000 euros, donc évidemment ils vont s'interroger là-dessus et ils vont finir par vous embêter. Et les banques finissent parfois, quand elles considèrent qu'elles n'ont pas d'explication particulière, elles considèrent que vous êtes un individu suspect. Donc on peut vous signaler, c'est un organisme qui s'appelle Tracfin, et puis fermer votre compte. L'intérêt, si tant est qu'il y en ait un, de regarder ces fameuses conditions que personne ne lit, c'est notamment pour connaître le délai à partir duquel à partir duquel ils sont autorisés à le fermer définitivement. En règle générale, vous bénéficiez d'un délai de 2 mois. Alors, c'est 2 mois en règle générale. Voilà, si vous avez certains contrats où il n'y a rien qui apparaît, mais si rien n'apparaît, ce sera 2 mois. Alors, pendant ces 2 mois, ce qui peut sembler très court, si vous avez des prélèvements qui sont faits sur vos comptes, à vous de vous débrouiller pour faire en sorte d'essayer de trouver un autre établissement bancaire. C'est toujours embêtant, parce que vous allez voir un autre établissement bancaire, il va vous poser des questions, et puis si vous lui dites « j'étais à la banque lambda et elle a fermé mon compte », on va vous regarder de manière un peu suspicieuse. Mais il faut savoir quand même, et ça c'est important, que c'est une obligation. Enfin, c'est une obligation,
Un droit. Ouais, est-ce qu'il y a un droit au compte bancaire en France?
C'est un droit. C'est-à-dire que si, effectivement, une banque, deux banques vous refusent pour des raisons X ou Y, il faudra contacter la Banque de France qui, elle, va vous imposer un établissement bancaire déterminé et obliger cet établissement bancaire déterminé à prendre votre dossier, à vous ouvrir un compte. Donc, on peut pas vous laisser comme ça dans la nature. Donc, à ce moment-là, quand vous n'avez pas d'accord avec tel ou tel établissement bancaire, C'est la Banque de France qui intervient. Si votre banque, pour une raison lambda, ferme votre compte et vous considérez que c'est injustifié, alors vous pouvez d'abord leur demander des explications, mais si la réponse reste la même, il faut savoir qu'au sein des banques, il existe un médiateur. Et c'est ce médiateur qu'il va falloir au préalable, avant toute éventuelle procédure judiciaire, donc il va falloir contacter. Le médiateur dispose d'un délai, alors c'est quand même long, puisqu'il dispose d'un délai maximum de 90 jours pour apporter une réponse. Alors la réponse, elle est positive ou elle est négative. Honnêtement, très souvent, ça va aller dans le sens de la banque, je vous le redis, puisqu'une banque n'est pas obligée de vous garder comme client. Donc on imagine mal le médiateur aller dans votre sens. Et si vous considérez que ça vous a porté préjudice, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, je le redis, je suis un établissement bancaire, je ferme votre compte, j'ai le droit de le faire, donc il n'y a pas de procédure particulière pour attaquer la banque. Il y a une procédure si vous considérez que ça vous a causé un préjudice. C'est ce qui est très compliqué à déterminer, car si ça vous a causé un préjudice, vous pouvez engager une procédure et solliciter des dommages et intérêts, mais encore une fois, il faudra démontrer devant le tribunal que cette fermeture de l'établissement bancaire, que vous soyez un particulier ou un professionnel, et en particulier si vous êtes un professionnel, il faudra démontrer qu'il y a eu un préjudice dans éventuellement dans votre activité, que ça a peut-être désorganisé un peu la manière de travailler. Mais voilà, donc ça fait partie de ces professions qui disposent quand même d'un pouvoir exorbitant, comme on dit en droit, où on peut vous gifler du jour au lendemain et oublier que vous avez peut-être été pendant de très nombreuses années un très bon client. Mais quand, à leurs yeux, vous devenez un paria, eh ben, on oublie toutes ces années où ils ont pu se sucrer sur votre dos.
Est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on peut aujourd'hui demander à un établissement bancaire qui ferme notre compte pourquoi il le fait ? Et est-ce que la banque est obligée de se justifier, de donner un motif ?
Alors, d'abord c'est le premier réflexe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la banque vous envoie un petit courrier, quand ils nous font l'honneur d'envoyer un courrier pour dire écoutez, on va fermer votre compte, en règle générale, ils donnent pas d'explication. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous pouvez leur demander de motiver le pourquoi de ce comportement. Ils ne sont pas obligés de vous répondre. C'est toute la difficulté. C'est ce qui fait qu'à un moment, si vous voulez, entre guillemets, aller un peu plus loin, c'est-à-dire s'il n'y a pas de discussion avec l'établissement bancaire ou avec le directeur, ce sera le médiateur. C'est lui qui peut éventuellement essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis, je vous le redis, en règle générale, le médiateur va statuer, même si c'est le médiateur. Donc on se dit, il est là pour essayer de rapprocher les positions. Mais si il y a rien au niveau explication, au niveau avec le médiateur, il faudra saisir le tribunal, et il n'y a qu'un tribunal qui pourra, avec un coup de gourdin sur la tête de l'établissement bancaire, demander une explication sérieuse.
Est-ce que vous connaissez des titulaires de comptes qui ont pris un avocat et justement qui ont obligé leur établissement bancaire à les réintégrer ?
Alors, on a ce qu'on appelle de la jurisprudence, c'est-à-dire qu'il y a des décisions qui ont été rendues. À mon niveau, non. Voilà, je ne vais pas faire semblant.
Vous connaissez beaucoup de gens à qui on a fermé le compte de façon abusive comme
oui.
Ça ?
Alors on s'en rend pas compte et c'est très troublant. C'est-à-dire que moi je peux comprendre qu'un établissement bancaire, quand il considère que il y a encore une fois ce que je vous disais, des mouvements suspects où vous versez des espèces et autres et que la banque s'interroge, je peux le comprendre. Mais parfois la banque vous interroge et quand vous apportez la réponse, à leurs yeux la réponse n'est pas satisfaisante. Mais c'est vous marquer au fer rouge parce qu'on a l'impression que votre client est un trafiquant alors que vous pourriez vendre un véhicule et puis être payé en espèces et pourquoi pas. C'est encore une fois en soi, c'est pas interdit. Donc c'est ce côté un peu suspicieux et cette image qu'on vous colle sur le front. Et ça, c'est assez pénible. C'est pour ça que les banques n'ont aucun respect pour leurs clients. Donc il faut pas.
Pourquoi vous arrêtez la médecine ?
Ah, je salue Nadia qui vient d'arriver
comme et par ça, et
politesse.
Vous arrêtez de parler.
Oui, mais enfin quand même.
Vous pouvez pas faire deux choses en même temps.
Non, j'arrive pas. Par respect pour elle, voilà, j'ai une jolie femme devant moi et j'ai envie de la saluer. Je l'apprécie, je l'aime beaucoup. Voilà. Donc nos auditeurs nous pardonneront quand même cette cet arrêt de 30 secondes. Même pas d'ailleurs. En tout cas, moi je pars du principe que si un jour et si Dieu m'écoute, je devais gagner un bon loto. Hein, j'irai ouvrir un compte.
Mais est-ce que vous jouez déjà ?
Non.
Bon, déjà.
Non, non, mais ça, voilà. Mais dans l'hypothèse où j'irai ouvrir un compte, et puis je retirerai mon argent immédiatement, je fermerai mon compte. Simplement, voilà, pour voir chialer le banquier devant moi. Voilà, c'est un truc, ça, c'est un kiff. Voilà, ça me ferait plaisir.
Il y a une grosse cagnotte, hein, du 1er avril, je crois.
Oh.
Ouais.
C'est pas un poisson d'avril ?
Non, c'est une vraie. Tiens, oui. Puisque de toute façon, Maître Serran, vous avez décidé de ne pas venir nous rejoindre tous les soirs pendant le mois du Ramadan, voilà. Vous allez donc aller faire des lotos pour tout le monde.
D'accord, ben je vais faire
pour
ça.
Pour Maître Boily qui réalise cette émission, qui ouais. a lui aussi besoin
c'est vrai, c'est
hein, d'alimenter son compte aux Bahamas.
Il a raison.
Hein, pour Nadia El Bouga qui a besoin de changer la deux chevaux.
On roule pas en deux chevaux, Nadia. Bah, d'ailleurs, les deux chevaux sont chers maintenant.
Bah, hein. C'est collection.
On est d'accord.
Ouais,
bon, bah voilà. Ouais. Ah, donc il y a de l'argent en fait.
Bon, alors si vous avez quand même et malgré tout envie de poser vos questions à Maître Serran qui ne sera pas là avec nous pendant le mois du Ramadan d'accord. tous les soirs comme il le faisait ouais. traditionnellement mmh. depuis 25 ans.
C'est vrai.
Vous pouvez l'appeler au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
J'ai cru qu'on n'allait pas vous retrouver, dites donc. Va falloir se réhabituer, hein, parce que c'est aussi ça, le mois de Ramadan.
Ouais.
Ouais, des pauses. Des pauses qui s'imposent.
Des pauses éternelles. J'ai eu le temps d'aller à mon cabinet et de revenir.
Oui. Je vous ai même servi un deuxième chocolat, Maître Serran. Budget illimité, parce que les ouais. derniers chocolats
grande
d'avant l'annonce du début du Ramadan, ils n'ont pas le même goût.
Non, c'est vrai. Ouais, j'apprécie
ouais,
davantage.
Aujourd'hui, tu peux.
C'est vrai. Et je vais faire en sorte de ne pas le renverser.
Bon.
Parce que là, ça serait exagéré.
Je me demande s'il n'y a pas un doute, quand même. Tout le monde a l'air assez serein sur le 2. Je me demande s'il n'y a pas un doute, Maître Serran.
Moi, j'ai des doutes sur ce doute.
Non. J'ai beaucoup potassé sur ce qui se dit dans le monde entier.
Ah ouais.
Ouais, ouais. Tout le monde était très confiant il y a 15 jours. Et là, il y a un chouïa de doute quand même.
Ouais. J'écoutais France Info en venant ce matin. Non, mais je peux quand même le dire. Et la journaliste annonçait que c'était aujourd'hui.
Oui,
donc,
c'est pas la radio du Ramadan. Ouais.
Non, France Info, c'est pas la radio du Ramadan.
Je suis même pas sûr qu'il y aura consensus.
Ah, carrément.
Ah non, je suis même pas sûr. Franchement, je pense que ce soir, la soirée va être intéressante. On vous donne rendez-vous avec Adil Farkan à partir de 18h et l'imam Abdelali Mamoun. Et nous serons, comme vous le savez, tous les ans en direct depuis la mosquée de Paris pour l'annonce officielle du mois de Ramadan. Mais
moi, donc, j'ai un doute. On peut prendre les paris, alors.
En tout cas, c'est pas du 100%.
D'accord.
Franchement.
Bon, ben voilà, on revient à l'essentiel, c'est ça qui est intéressant.
Voilà, moi je trouve que c'est aussi bien.
Complètement.
Bon alors, deuxième sujet important, si vous souhaitez que Maître Serran soit avec nous tous les soirs du mois de Ramadan, vous exprimez, vous le dites. Hein, on peut tous dire,
c'est n'importe
01
quoi.
53 48 3000, si vous ne souhaitez pas que Maître Serran soit, parce qu'il y en a qui peuvent ne pas souhaiter,
évidemment.
Et ce qu'on accepte.
Et je peux le comprendre.
01 53 48 3000. Et nous avons donc Rachid qui nous appelle des Yvelines. Rachid, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour Rachid.
Bonjour Rachid.
Oui, bonjour maître. Je vous appelle en fait parce que j'ai subi une arnaque immobilière en Algérie. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que je peux faire d'ici en France. Parce que évidemment, j'ai pris des avocats en Algérie. Mais là, je suis toujours en attente d'un jugement. Donc là, ça fait... C'est depuis 2020 et j'ai toujours rien.
Alors, la difficulté, c'est que... Alors, rien vous interdit, évidemment, de prendre un avocat sur le territoire français.
Ouais.
Mais vous avez bien compris qu'il aura comme interlocuteur, à minima, vos avocats. Donc, si c'est, entre guillemets, pour savoir concrètement est-ce que les avocats du pays, quand ils vous racontent des choses, est-ce que ça correspond à une réalité ou pas? Donc, lui pourra vous le dire. Techniquement, il peut également contacter tel ou tel service. Après, tout dépend ce que vous attendez de la part de cet avocat. Mais le type d'arnaque, ce serait quoi, si vous pouvez résumer en 30 secondes?
En fait, l'arnaque, c'est qu'on m'a fait croire que j'allais avoir un super prix sur des appartements. Donc, j'ai versé un acompte. Et il s'avère que les documents qu'on m'a remis récemment, ils étaient falsifiés en fait. Donc ça correspondait bien à l'enquête du promoteur. Et en réalité, il s'avère que les documents que j'ai moi, ils sont faux quoi.
D'accord.
Parce qu'en fait, on m'a remis ces documents-là et on m'a dit par la suite, là vous me versez la compte et après je vous ramène les vrais documents d'une notaire, et puis après, dans le temps, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que c'était une arnaque, en fait.
Ouais, il y avait pas d'appartement derrière, on est d'accord, c'était pas qu'une question de...
Oui, Ah, oui, oui. Ah, si, si, il y avait un appartement derrière, oui.
C'est simplement le prix qui n'était pas le bon, c'est ça?
Ah, si, non. Il y a, en fait, il s'avère qu'il n'y a pas du tout appartement.
Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'appartement. Donc,
voilà, ouais. C'est ça.
D'accord. Donc, il a vendu du vent.
J'ai payé du vent.
En fait. D'accord. Mais vous avez déjà versé un acompte?
Ah, oui.
Et au niveau procédural, là, vos avocats, ils disent quoi au niveau de l'enquête? D'ailleurs, ça fait combien de temps qu'ils sont sur le dossier?
En fait, moi, vu que je ne suis pas sur place, donc j'ai un intermédiaire qui est là-bas, et il me dit que là, ils ont tout fait et qu'ils attendent le jugement. Mais bon, le jugement, je ne veux pas l'attendre 15 ans.
Mais il vous a donné une date?
Non, justement, il n'y a pas de date, il n'y a rien.
Ah d'accord, c'est-à-dire qu'au moment où on se parle, l'avocat n'est même pas informé de la date de l'éventuel jugement.
Exactement. En fait, a priori, c'est passé au tribunal le 29 août. Le 29 août, c'est passé au tribunal. Ils ont toutes les charges entre eux, contre les trous, là. Et aujourd'hui, il n'y a rien. Et aujourd'hui, moi, je sais pas quoi faire, je sais pas...
Mais vous, il y a que vous qui êtes concerné ou alors est-ce que ça concerne d'autres personnes?
A priori, c'est une
personne. Ah, j'ai pas entendu.
Vous êtes passé dans un tunnel. Ouais. A priori.
Ah.
Et là, c'est Rachid le suspense.
A disparu.
Grand moment de solitude radiophonique.
Ouais, c'est vrai.
JMR, on ne saura jamais.
Bon,
rappelez-nous si.
C'est le service secret algérien, je crois qu'ils l'ont fumé.
Vous voyez que c'est ça? Ah ouais.
Ouais.
Bon, alors attends, parce que sur le prénom, Maître Wadi, je suis pas très sûr. C'est Al? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, à mon avis, c'est pas bon. Alors, Maître Wadi, qu'est-ce que vous faites? Sinon. Hadj. Ah, voilà.
En plus.
Voilà, Hadj. Hadj, bienvenue.
Bonjour, Monsieur Philippe. Bonjour, Maître
Wadi. Bonjour, Hadj.
Alors, j'ai une question, s'il vous plaît. Moi, je suis rentré en France en 2016 j'ai eu une bourse algérienne pour finaliser ma thèse de doctorat ici en France. Et donc, du coup, j'ai eu un titre de séjour scientifique chercheur. Il y avait aussi avec moi ma femme. Elle a eu un titre de séjour privé familial. Et depuis là, je suis avec ce statut-là, scientifique chercheur. Et j'ai eu mon doctorat, c'est bon, j'ai soutenu tout et tout, donc j'ai tout finalisé. J'ai soutenu mon doctorat, j'ai eu mon diplôme et tout. Et là, j'ai envie de procéder pour faire un changement de statut, pour en demander un changement de statut. Et parce que j'ai pas trouvé, un job dans le domaine. Bon, je suis archéologue.
Vous êtes, pardon?
Archéologue.
Archéologue.
Archéologue, oh,
c'est
ouais.
Intéressant, ça.
Ouais, ouais. Fallait fouiller le métro d'Alger.
Ouais. Ouais. Donc, mais ici en France, j'ai pas réussi à trouver vraiment un contrat qui me permet de renouveler mon titre de séjour. Mm-hmm. Donc, voilà. C'est ça
Ils recrutent pas d'archéologues en France.
Enfin, c'est pas la question. C'est rare. C'est rare.
Ben on oui, c'est ça. Des c'est postes pointu.
Vraiment, voilà. Comme on est des étrangers, donc on doit renouveler pour rester, dans une situation régulière. Mm-hmm. Donc pour sortir de ce problème, donc j'ai procédé à faire un changement de statut et j'ai commencé par créer une auto-entreprise et j'ai fait une formation dans ce domaine-là. Et ce jeudi-là, j'ai un rendez-vous à la préfecture de l'Île-et-Rose pour déposer ce changement de statut. Donc la paperasse, elle est toute prête. Et la question, c'est que ma femme, elle a le titre de séjour de vie privée et familiale. Donc, et pour renouveler elle-même, normalement, elle doit travailler pour renouveler en tant que salariée, hein, je sais pas. Donc, mais le problème, c'est que ma femme, elle n'a jamais travaillé en France. Donc, elle s'occupe surtout de ses enfants et en plus, elle va accoucher.
D'accord, mais alors, elle a obtenu comment son titre vie privée familiale?
Parce qu'elle était conjointe scientifique.
D'accord, donc elle était déjà mariée.
Oui, oui, on était déjà mariés, ouais, avec un
enfant. Mais là, les enfants sont des enfants communs?
Pardon?
Vous m'avez parlé d'enfants, sont des enfants communs? Ce sont vos enfants également?
Oui, oui, oui. Ouais.
D'accord, ok.
Ouais, ouais.
D'accord.
On est rentré en France dans marié avec un acte de mariage.
D'accord, d'accord.
Voilà, donc tout est régulier. Ouais. Ma question, c'est que ma femme, elle pour renouveler son sang, avant quand on renouvelle le titre de séjour, elle était avec moi, donc elle demande rien au niveau de la préfecture.
Ouais.
Elle demande juste la convention d'accueil et tout, et elle renouvelle tout pour tous les deux, moi et elle. Et là, quand je passe moi au changement de statut, donc elle va faire comment? Est-ce qu'elle reste toujours avec moi en tant que moi je suis en tant que commerçant, après je deviendrai commerçant, et
il y a déjà un premier obstacle, monsieur, qui est pas facile à franchir, votre changement de statut.
Ouais.
Vous avez bien compris que entre guillemets le deal avec les autorités françaises, c'est dire vous avez un statut d'étudiant dans un domaine déterminé et vous avez obtenu votre diplôme. Et la logique voudrait que soit je suis venu, j'ai fait mes études en France et puis je repars au pays, soit je trouve une activité qui est liée à mon diplôme. Et
ouais,
risque de vous tacler là-dessus. Si vous ouvrez une société ou si vous dites je vais travailler dans telle ou telle boîte, mais que cette activité n'est liée ni de près ni de loin à votre doctorat, ouais, à votre diplôme, à votre formation, on ouais risque de vous tacler et de vous dire mais encore une fois le deal, monsieur, c'était pas ça. C'est-à-dire les autorités françaises font l'effort quand on considère que vous présentez un contrat de travail qui est lié directement à votre activité, à votre diplôme. Là, ça me semble très compliqué. Et là, votre statut d'auto-entrepreneur, ce serait pour faire quoi?
Pour faire des prestations de services aux entreprises, aux personnes.
Mais lié à l'archéologie?
Non, pas du tout. Pas du tout.
Moi, c'est un peu ça qui m'inquiète. Vous voyez, les autorités préfectorales sont très sensibles à ça. C'est-à-dire que si vous présentez une activité professionnelle, encore une fois, qui n'a rien à voir avec votre diplôme, on peut vous tacler. Et si on vous tacle, vous avez bien compris qu'il y aura une répercussion sur la situation de votre épouse.
Ouais, tout à fait.
Ouais. Hein, c'est ce qu'on appelle la théorie des dominos. Donc c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'il va d'abord falloir essayer peut-être de faire le forcing vous concernant pour qu'ensuite la situation de votre épouse puisse être régularisée ou facilitée, mais ça me fait un peu peur déjà pour vous, hein.
Bien, alors on arrive à la pause. Ce que vous pouvez faire et ce qu'on vous propose, Hatch, c'est de rappeler Maître Serran après l'émission. Maître Serran.
Ouais, peut-être on va faire ça. Donc je suis joignable au 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Merci H pour votre question. Alors on revient dans un instant. Si vous voulez poser vos questions à Maître Serran, vous composez le 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, je vous rappelle que ce soir, en direct, à partir de 18h, eh bien, nous saurons quelle est la date du début du mois de Ramadan. Ce sera annoncé par le recteur de la mosquée de Paris, Chemseddine Hafiz, qui sera donc avec nous, qui sera notre invité ce soir. Donc, à partir de 18h, Adil Farkan est là. L'imam Abdelali Mamoun sera là aussi. Nous ne déplorerons que l'absence de Maître Serran.
Ah, c'était important de le signaler, ça.
Là, moi, les désertions, je ne sais pas comment me comporter. J'ai du mal.
Ouais, d'accord. Bon, je vais même pas évoquer la discussion qu'on a eue ensemble, parce que moi, je vous aime beaucoup. Et je ne dévoile rien, mais bon, d'accord, si vous
c'est
me
bien
prenez comme ça.
C'est bien, c'est bien. Ouais, secret professionnel.
Absolument.
Maître Serran.
Absolument.
Donc, si vous avez une question juridique à poser à Maître Serran, eh bien, vous la posez au 01 53 48 3000 et c'est Mohamed qui est avec nous.
Oui, allô ?
Oui, Mohamed.
Oui, bonjour, monsieur Philippe. Bonjour, Maître Serran.
Bonjour, Mohamed.
Voilà, moi je réside ici, j'ai ma résidence et tout, je travaille, alhamdoulilah et tout. Et je suis fiancé avec un médecin qui est venu de Blatt en tant que stagiaire. Et elle a titre de séjour d'un an, renouvelable. Et bon, ça veut dire qu'elle est venue en stage, ça veut dire qu'on a fini son stage, elle est censée de rentrer.
En principe.
Et voilà. Et est-ce que, quand, parce que là, je vais faire l'acte avec elle et tout, est-ce qu'il y a possibilité de faire changement de statut ou.
Donc là, pour l'instant, vous n'êtes pas marié encore.
Non, non, mais on a pris rendez-vous pour faire l'acte et tout, et voilà.
D'accord. Alors vous me dites qu'elle est médecin, c'est ça, ou stagiaire?
Oui,
en tout
cas. Voilà. Oui, non, elle est médecin en Algérie, mais ici, elle est venue en tant que stagiaire FFI, quoi.
D'accord. Les autorités françaises ne sont pas folles. C'est-à-dire que si vous m'aviez dit que votre épouse ne travaille pas, j'aurais dit que... Alors d'abord, ça vous interdit pas de vous marier, hein, c'est un principe, il n'y a pas de difficulté. Oui. Et après le mariage, vous pouvez évidemment déposer un dossier pour demander un changement de statut pour madame. Mais compte tenu, monsieur, de sa formation, de son activité professionnelle, il est très certain que les autorités préfectorales vont lui dire oui. Parce que la France a besoin, évidemment, et on le voit, de médecins, et la France n'hésite pas à crier haut et fort et à inviter les médecins, et notamment beaucoup de médecins algériens qui désertent l'Algérie pour venir s'installer sur le territoire français. Donc voilà, ça, a priori, ça posera pas de difficultés concernant votre épouse, en tout cas votre future épouse.
Oui, voilà, je sais pas, parce que ils m'ont dit, faut pas faire un regroupement, simplement changement de statut, comme elle est en activité, bon.
Non, mais je vous dis, il y a cet aspect-là, elle est déjà en activité, compte tenu, encore une fois, de la formation de votre épouse, monsieur. Les autorités françaises sont à l'affût, hein, de récupérer des médecins des pays d'Afrique du Nord. Donc le fait que madame décide de faire sa vie sur le territoire français, je peux vous assurer que ça va évidemment grandement faciliter la situation. Donc a priori, il y aura pas de difficultés pour vous et pour madame.
Oui, parce que comme j'ai la résidence, moi, c'est pour ça.
Quand bien même, dans l'hypothèse même, on vous demanderait de faire un regroupement familial, vous avez la possibilité de le faire du territoire français. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas obligée de retourner au pays. Et je vous dis, ce qui va jouer, en particulier pour madame, c'est sa formation professionnelle.
Oui, parce qu'elle est, elle est spécialiste dans les urgences. Et comme c'est trop demandé, ils veulent pas qu'elle finisse son stage. Donc, très successivement, et là, ils vont dire non, il faut que tu repasses et tout. Le stage, on va faire le contrat et tout, parce que c'est. On a besoin et tout, on a les compétences. C'est pour ça.
Non, bah écoutez, ce sont pas des situations qui posent des difficultés. Encore une fois, ce sont des professions qui sont extrêmement recherchées depuis quelques temps. Donc, non, pas de problème pour madame.
D'accord. Merci, monsieur Serrani.
Merci à vous, Mohamed.
Bon ramadan,
Inch'Allah. Merci à vous.
Merci, monsieur Philippe.
Bon ramadan, Mohamed. Alors, nous avons Youssef qui est avec nous. Youssef, vous êtes le dernier auditeur de la matinée. Youssef, bienvenue.
Merci, bonjour maître, bonjour à toute l'équipe. Youssef. J'ai une question en matière de prescription.
Oui, allez-y,
voilà,
Youssef.
Je vous explique vite fait. Moi, j'avais un fonds de commerce que j'ai mis en location-gérance. Et quand le gérant est parti, il m'a laissé des dettes de loyer. Le juge a mis un dispositif en place permettant de régler les loyers dus. Ce dispositif a été respecté. Et malgré ça, j'ai été expulsé quand même. Donc je voudrais savoir, est-ce qu'il y a... j'ai été expulsé en 2018. Est-ce qu'il y a prescription ou pas?
Bah, vous avez une prescription.
J'aurais intenté une action.
Ouais, vous avez une prescription de 5 ans, mais pourquoi tarder?
Parce qu'entre-temps, j'étais très malade.
J'ai fait
un AVC. J'étais très malade. Et je me suis d'abord occupé de ma santé.
Évidemment. Encore une fois, c'est, au niveau de la prescription, il n'y a pas de difficulté. Ensuite, c'est entre guillemets le ressenti de la justice. C'est-à-dire que même si vous êtes dans votre bon droit, même s'il y a une prescription, et quand bien même vous seriez amené à mettre en avant les problèmes de santé, ce qu'évidemment on peut comprendre, c'est vrai que les magistrats sont, pardon pour l'expression, mais moins chauds quand on a un timing aussi important entre le moment où l'action aurait pu être engagée et le moment où vous allez l'engager. Ouais. Maintenant, juridiquement, vous pouvez le faire.
D'accord, parce que j'ai été expulsé injustement, parce que le dispositif est extrêmement rigoureusement respecté, et je suis tombé sur un huissier terrible, et voilà, que j'ai expliqué mon...
D'accord, juste pour comprendre, mais c'est-à-dire vous avez été expulsé, mais vous n'avez pas contesté la décision en appel? Non, non, monsieur, c'est pas. Alors, pardon, je rectifie ma réponse. Je pensais que vous vouliez engager une procédure pour éventuellement demander des dommages et intérêts et autres. Mais si une décision de justice a été rendue, il y a des délais à respecter. Donc, vous les avez largement explosés, des délais à respecter pour interjeter appel. Et si ça n'a pas été fait dans le timing,
non, mais
c'est injouable.
Ce que je veux dire, maître, c'est que il n'y a pas de jugement prononçant l'expulsion. Voilà. Il n'y a pas eu de jugement prononçant l'expulsion.
Bah, on vous a, entre guillemets, alors officiellement, sorti comment?
Officiellement, moi, j'ai revendiqué auprès de l'huissier comme quoi j'avais respecté le dispositif, j'étais convoqué au commissariat, j'ai donné toutes les preuves, et j'ai rien voulu savoir.
Non mais l'huissier de justice, il n'intervient pas sur la base de rien. C'est-à-dire qu'il y a forcément une décision de justice au préalable qui a été rendue.
L'huissier de justice, il a considéré que j'avais pas tout payé, alors que tout était payé, tout simplement. C'est tout, parce que c'est à défaut de respecter le dispositif, vous êtes expulsé.
Ouais, mais après, il y a un juge à saisir quand c'est comme ça, on appelle ça le juge de l'exécution.
Ouais.
Et normalement, sur les documents de l'huissier de justice, cette mention apparaît. Et si vous n'avez pas saisi le juge de l'exécution pour dire, attendez, l'huissier fait n'importe quoi, c'est terminé.
D'accord.
Donc là, toutes les portes sont fermées, monsieur. Il n'y a plus d'options.
Ah bon?
Et quand d'accord. bien même, okay. vous auriez les meilleures excuses du monde. Vous voyez, ce sont ce qu'on appelle des délais couperets. Donc à partir
la du maladie ne repousse pas les délais.
Non, non, c'est terrible, mais ça... Donc, au niveau procédural, c'est terminé.
J'aurais dû saisir le juge... Après l'expulsion, le juge...
Mais sur le... Encore une fois, ça, c'est pas... Entre guillemets, c'est pas une mention cachée. C'est-à-dire que dans le document de l'huissier de justice, on vous dit que vous pouvez contester cette mesure en saisissant le juge de l'exécution. Mais si ça n'a pas été fait, donc maintenant, c'est terminé.
Voilà, Youssef, ce qu'on pouvait vous dire, hein, pareil, vous pouvez rappeler maître Serran après l'émission.
Absolument, au 06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64.
Voilà, c'est le numéro de maître Serran. Notez ce rendez-vous que nous vous donnons avec Adil Farkan ce soir à partir de 18h. C'est la nuit du doute en direct depuis la mosquée de Paris. Donc rendez-vous ce soir pour connaître le début de ce mois de Ramadan. Donc est-ce que le premier jour du mois de Ramadan, maître Serran, c'est demain ou est-ce que c'est dimanche? Nous le saurons.
Que ce soit demain ou dimanche, qu'il soit le bienvenu.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.